marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Le thème de nos rediffusions cette semaine, combattre.
On ne subit pas seulement l'histoire, on la crée.
Karol Modzelewski, ancien porte-parole de Solidarność.
Les réformes pro-occidentales pour adapter notre pays à l'économie de marché, les réformes démocratiques, tout cela, c'était nos idéaux, ceux de Solidarność. Nous avons réalisé ces réformes. Mais les jeunes ne s'y intéressent plus, parce qu'ils les considèrent comme acquises. Personne ne s'émerveille de l'air qu'ils respirent au quotidien.
La voix que vous entendez, c'est celle de Karol Modzelewski, qui s'est éteinte le 28 avril 2019. Il avait participé à la marche de l'histoire le 19 octobre 2018. Déjà, il savait, et depuis longtemps, que l'autoritarisme avait pris le pouvoir en Pologne avec le parti de Kaczynski. Les politologues appellent cela le populisme, d'un mot qui sent le mépris mondain pour le peuple. Karol Modzelewski était historien. Les règles du métier lui ont appris à se garder de la dénonciation d'un bouc émissaire. Il sait aussi le poids du conformisme. Par conformisme, les Polonais s'accommodent du gouvernement actuel comme ils ont pu s'accommoder du faux socialisme du Parti communiste. C'est aussi le conformisme qui, en 1990, a amené les premiers dirigeants post-communistes à acheter la valeur en hausse à ce moment-là, le langage du marché et de la concurrence internationale, le libéralisme économique à tout va qui a emporté les grandes usines polonaises, à commencer par les chantiers de Gdansk, le berceau de Solidarność, dont Modzelewski a été le porte-parole. En réalité, remarque Modzelewski, Solidarność n'a connu qu'un temps enthousiasmant, celui de 1980, où le syndicat incarnait le mythe d'égalité et de communauté nationale auquel il avait toujours, lui, Modzelewski, rêvé. Le coup d'État en décembre 1981, la loi martiale ont coupé le cours de cette utopie avant qu'elle ne devienne histoire. Et la seconde, Solidarność, qui renaît ensuite, est très différente. Sa victoire fut celle de la liberté, certes, mais sans la fraternité d'avant. Après 1989, Karol Modzelewski, un moment sénateur, a été un participant de plus en plus critique des premières années du pouvoir post-communiste. Ses mémoires, qui sont parues à l'automne 2018 en France, se présentent comme celles d'un cavalier usé d'avoir trop galopé. Son ami Jacek Kuroń notait pourtant qu'au début de sa première période de prison, il en connut trois, soit 8 ans et demi, il chantait quand on le sortait de cellule, « Un jour, dans un lointain futur, un clairon inconnu de tous reprendra ta chanson. »
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour Karol Modzelewski.
Bonjour.
Ce livre qui est paru en Pologne il y a 3-4 ans est maintenant traduit en français par Elżbieta Salamaka et c'est aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous êtes historien du Moyen-Âge. Il est vrai qu'en régime communiste, c'est peut-être plus tranquille de travailler sur le Moyen-Âge que sur l'époque contemporaine.
Oui, bien sûr, on était plus libre. Il n'y avait pas de, si vous voulez, de commissaire politique derrière votre dos. C'est très important pour un savant.
Vous avez d'abord parlé russe.
Oui, c'était ma langue maternelle.
Votre père biologique est russe et a connu les camps de concentration. Votre père adoptif a connu aussi la prison de l'URSS, la torture même de l'URSS, alors qu'il était un militant important du Parti communiste français, du Parti communiste polonais, qu'il a été ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Pologne. Vous êtes né 1937, Moscou, mauvais endroit, mauvaise année. Vous êtes enfant dans une période où règne en Pologne une voix unique et puis sans doute la peur.
En fait, qu'est-ce que ça signifie, schizophrénie? C'est qu'on pense à une chose et qu'on en dit une autre. À ses proches, on dit une chose, et en public, on dit encore autre chose, car on a peur. On veut garder son travail, obtenir une promotion, acheter un appartement, éventuellement une voiture.
Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, il y a eu un coup de téléphone. T'es au courant?
Vas-y, dis-lui, toi.
On vient de vous téléphoner, il faut que vous alliez chez le patron, il veut vous voir.
Oui, lequel?
Le grand patron, mon vieux. feriez bien de régler votre note de restaurant avant.
Pourquoi vous dites ça? Vous pensez que ça peut être si grave?
Je ne suis pas là pour penser.
Il y a une voiture qui vous attend en bas. Dépêchez-vous.
Mais qui est-ce qui a téléphoné?
Le premier adjoint.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Vous auriez intérêt à emprunter un peigne à une de ces dames.
Oui, mais vous insistez beaucoup là-dessus. On peut, à l'époque où vous arrivez à la vie militante, 1956, on peut manifester un esprit d'indépendance et des lieux de liberté relative vont être ouverts en Pologne, dont vous allez bénéficier.
Ça dépend pour qui. Pour moi, je croyais que nous sommes forcés à la liberté, pour ainsi dire. C'est-à-dire l'image du socialisme réel. On ne parlait pas du socialisme réel à l'époque. C'est une invention terminologique beaucoup plus tardive. Du socialisme qu'on nous enseignait s'est effondré. Pour mes amis, les gens de plus ou moins de ma génération...
Vous pouvez dire camarades.
Mes camarades aussi, ça s'est effondré en 56 avec le rapport Khrushchev, c'est-à-dire l'image, un tableau beau et faux qui était exposé devant nos yeux, a été déchiré et nous avons vu derrière un paysage sinistre qui était un paysage de la vérité. En découvrant que c'est un régime inacceptable, nous avons découvert aussi ce qu'on a enseigné. Et qu'on conteste, on doit contester les régimes inacceptables, on doit les abolir moyennant la révolution. Et qui fait la révolution, c'est la classe ouvrière qui le fait, ce qu'on nous a enseigné. Et est-ce qu'elle le fait seule? Non, c'est l'intelligentsia, c'est plus que des intellectuels, c'est plus large que les intellectuels, qui doit porter la conscience révolutionnaire au sein de la classe ouvrière. Et c'est ce qu'on m'a chargé de faire lorsque j'avais presque 19 ans. Et c'était Krzysztof Pomian et Jacek Kuroń, mes amis, un peu plus âgés que moi, mais peut-être plutôt par lecture ou par l'histoire, justement. Et les autres copains de l'Union de la jeunesse polonaise qui étaient révoltés à l'université, et ces jeunes communistes en révolte m'ont envoyé à l'usine Gérard. Je leur dois beaucoup, parce que c'était la découverte d'un monde ouvrier que j'ai fait à l'âge de ma formation.
Et c'est ensuite, au nom de la classe ouvrière, qu'avec vos camarades, on va oser le mot, vous essayez de prendre le contrôle de différents organismes communistes, notamment
oui,
celui
ça.
Des jeunes étudiants que vous voulez conquérir en 1964 avec votre ami Jacek Kuroń. Et c'est le moment extraordinaire, parce que ça a eu beaucoup d'influence, et au-delà du monde communiste, sur toutes les jeunesses des années 1960, de la lettre ouverte au Parti communiste, renéotée, ouais. Existant très peu d'exemplaires.
Elle n'était même pas renouvelée, elle était écrite, tapée à la machine. 14 exemplaires tapés à la machine. C'était tout.
Et qu'est-ce que ça disait? Ça disait que la classe ouvrière était aliénée par le socialisme réel, par le faux socialisme du parti.
Ça disait qu'au lieu du socialisme, au lieu de la dictature du prolétariat, nous avons affaire à une dictature sur les prolétariats ou contre la classe ouvrière. Et que c'est la classe dirigeante, la classe dominante qui opprime la classe ouvrière et les autres couches de la société, y compris l'intelligentsia. Et c'est ça l'ennemi des classes. Et au terme marxiste, nous avons fait l'analyse de la dictature communiste d'antan en appelant la révolution au changement du régime par moyennant la révolution.
Donc vous utilisez toujours le vocabulaire marxiste.
Nous avons utilisé le vocabulaire marxiste et les notions marxistes de l'analyse.
Alors ça, c'est insupportable pour le Parti communiste qui vous exclut, vous en étiez membre depuis 1957, et qui vous fourre avec Kuroń en prison, premier séjour en prison. Une des beautés de votre livre, qui est considérable, c'est le chapitre sur la prison. On comprend que vous publiez les mémoires d'un cavalier usé. Vous avez fait 3 séjours successifs en prison, et comme vous êtes un historien, vous coupez au scalpel la prison pour l'observer.
C'était une partie de ma vie. C'est une partie de notre vie, de tout le monde, je dirais.
Enfin, parce de que tout le monde, oui.
Oui, parce que le prison est le revers, l'autre côté de notre vie, de notre société. La manière dont on traite nos criminels, de nous traitons nos criminels, en disent beaucoup de nous-mêmes. Et je pense que cette expérience, j'ai fait en somme 8 ans et demi en prison, j'ai l'impression d'avoir touché le revers, touché l'autre côté de notre société. Et j'ai écrit ce chapitre sur la prison dans ce livre-là, et qui est une partie à part, pour ainsi dire. Ça vaut la peine de la lire à part, d'y réfléchir à part.
À peine sorti de prison, peu de semaines, de mois après, vous reprenez le harnais, vous redevenez militant, c'est janvier 1968, et figurez-vous que les autorités communistes ont eu l'étrange idée de vouloir interdire les représentations au Théâtre National de Varsovie des aïeux de Mickiewicz, un texte absolument fondateur de l'indépendance polonaise qui est régénérée par le sang qui surgit sans cesse des Polonais.
Le peuple saignait la prison d'un rempart immobile. Les troupes en armes, les tambours en tête se tenaient sur deux rangs, comme pour une grande cérémonie. Au milieu d'elles étaient les kibitkas. Je lance un regard furtif et j'aperçois l'officier de police s'avancer à cheval. Sa figure annonçait un grand homme conduisant un grand triomphe. Oui, le triomphe du tsar du Nord, vainqueur de jeunes enfants. Au roulement du tambour, on ouvre les portes de l'hôtel de ville. Ils sortent. Chaque prisonnier avait près de lui une sentinelle, la baïonnette au fusil. Pauvres enfants. Ils avaient tous, comme des recrues, la tête rasée, les fers aux pieds. Le plus jeune, âgé de 10 ans, se plaignait de ne pouvoir soulever ses chaînes et montrer ses pieds nus et ensanglantés. L'officier de police passe, demande le motif de ses plaintes. L'officier de police, homme plein d'humanité, examine lui-même les chaînes. 10 livres. C'est conforme au poids prescrit.
Toucher au texte de Mickiewicz, mais c'est impossible. C'est une affaire d'honneur, c'est une affaire de décence, parce que dites-vous, Karol Modzelewski, il y a 2 canons dans la tradition nationale polonaise, et l'un des deux, c'est le canon romantique, la poitrine offerte, l'indépendance au prix de notre sang.
J'étais parfois romantique, ce que vous décrivez, parfois j'étais positiviste, c'est-à-dire un réaliste qui mesure les dangers, les menaces pour l'existence collective du peuple aussi, y compris.
Ça, c'est le deuxième canon, pragmatique,
le positiviste. Le canon pragmatique, il est appelé comme positivisme, mais ça, c'est... Ça s'en suivait, il y avait l'un après l'autre. D'abord, pendant les insurrections, c'était le canon romantique qui prenait le dessous. Et après, les insurrections écrasées, c'était plutôt le canon positiviste qui reprenait le courant, pour ainsi dire. Et lorsqu'on écrivait la lettre ouverte, c'était nettement, malgré la terminologie marxiste, c'était nettement le canon romantique.
Et en 1968 aussi, c'est le canon romantique quand... Peu de mois après cette interdiction des représentations de Mickiewicz, la Pologne participe à l'invasion de la Tchécoslovaquie.
Oui.
Quelle indécence!
C'est ça ce qui m'a fait changer la perspective, si vous voulez. Et la participation polonaise à l'invasion en Tchécoslovaquie, qui était sentie par moi-même et par plusieurs de mes camarades et de mes compatriotes comme une vergogne. Mais cette vergogne, pour moi, c'était particulièrement douloureux parce que j'étais en prison en ce moment-là.
Ah, de nouveau?
J'étais en prison pour les faits de mars 68. Et je me sentais dans l'impuissance à réagir. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en prison et quand notre pays participe à l'invasion de grands frères? Oui. Et sans pouvoir réagir, parce que les autres ont pu au moins réagir.
Les années 1970, une fois que vous êtes sorti, une deuxième fois de prison, sont consacrées au retour
à l'histoire médiévale, juste le titre d'un de vos livres de l'époque, « Les États de l'Europe de l'Est au XIe et au XIIe siècle ».
Le premier livre qui a été paru après ma sortie de la prison, c'était l'organisation économique de l'État des Piastes, 11e, 13e siècle, 10e, 13e siècle plutôt.
Mais c'est toujours un équilibre sur deux pieds, la tradition positiviste, pragmatique, la tradition romantique, le métier d'historien, et puis la dissidence. La dissidence qui n'est pas tout à fait une profession, mais enfin, en 1980...
C'était pas la dissidence en 1980.
Mais en 1980, ce qui va se produire, et qui n'est pas la dissidence, qui est bien au-delà de la dissidence, vous fait sortir de votre retraite. C'est l'époque de Solidarnosc.
Śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Zęby krab, zerwi kajdany, połam bat, chamury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwi burą zęby krab, zerwi kajdany, połam bat, chamury runą, runą,
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Karol Modzelewski, qui, à cette époque, 1980, est un des porte-parole de Solidarnosc. Là, on a fait galoper l'histoire. Je reprends le titre de vos mémoires qui paraissent en français aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. La grande grève des chantiers navals de Gdansk, les accords qui s'ensuivent, la naissance de ce personnage auquel vous accordez un sens du peuple, de l'immédiat extraordinaire, Lech Walesa. Ah, c'est autre chose, en effet, que de la dissidence.
Tout à fait autre chose, ça c'est la révolution. Sans blague. Parce qu'à mon avis, la révolution n'est pas ce que disent les politologues, qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais il ne s'agit pas tellement du changement du régime, mais il s'agit d'un fait psychologique, au fond, de la psychologie sociale, c'est-à-dire de l'autolibération mentale des millions de gens qui laissent tomber leur conformisme habituel dans lequel ils sont formés, et pour se sentir libre de créer sa propre vie, de dominer sa vie, de dominer souverainement la vie de leur usine, de leur école, pour contrôler souverainement leur syndicat, pour devenir les maîtres de leur pays, ce qui est déjà dangereux dans l'Europe de la souveraineté limitée, suivant la doctrine Brejnev.
Alors, vous parlez de révolution, Karol Modzelewski, mais c'est une question nationale qui est au centre du mouvement Solidarność. Nous sommes avant tout des Polonais et seulement après des syndicalistes.
C'est la formule de Wałęsa qui me faisait un peu rire lorsqu'il le disait, mais je dois avouer que je la partageais au fond. Pas dans le même mot qui me semblait un peu bouffon, mais dans son sens profond. Mais ça allait dire que en tant que syndicaliste, nous aurons dû peut-être aller plus loin dans nos revendications. En tant que Polonais, on doit être raisonnable pour ne pas exposer le peuple polonais, c'est-à-dire la nation, si vous voulez, il s'agit de l'intérêt national, à l'écrasement par Moscou, par l'invasion soviétique.
D'ailleurs, vous dites, personne chez nous ne pensait vraiment à se retirer du pacte de Varsovie.
C'est vrai.
On voulait pas casser le béton qui reliait l'Union soviétique et la Pologne depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
C'était Gorbatchev qui a cassé le béton.
Jaruzelski, le chef d'État général aux lunettes noires de Pologne, invoque en décembre 1981 la crise économique et puis surtout le sursaut, selon lui, d'une action anti-soviétique que symboliserait Solidarnosc.
Dimanche 13 décembre 1981, le général Jaruzelski s'adresse à la nation.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Citoyennes et citoyens de la République populaire de Pologne.
Jako żołnierz.
Je m'adresse à vous pour des affaires de la plus haute importance. De nouveaux coups sont portés chaque jour par l'agressivité croissante des extrémistes, par la recherche ouverte du démembrement total du caractère socialiste de l'État polonais. Conformément aux dispositions de la Constitution, le Conseil d'État a déclaré aujourd'hui à minuit l'état de guerre sur l'ensemble du territoire.
Et vous voilà de nouveau au trou, en prison. Mais je voudrais insister, Karol Mozelewski, sur ce qui est le plus important dans votre témoignage, vos confessions d'un cavalier usé aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous dites quelque chose a été cassé par la loi martiale. Solidarnosc, qui va renaître en apparence, ne sera pas du tout le même qu'avant 1981. Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'était pas un syndicat de droite. Il y avait 1 million de personnes à Solidarnosc qui étaient en même temps membres du Parti communiste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une cassure. Laquelle?
Il y a une cassure psychologique, si vous voulez. C'est-à-dire au moment où, là où les ouvriers des usines, de certaines usines, de plusieurs usines à Wrocław par exemple, de plusieurs usines en Haute-Silésie également, là où on a tiré effectivement, on a fait 9 morts dans la mine Wujek, parmi les mineurs grévistes, mais aussi dans les autres usines, à Varsovie par exemple, où les OMO, c'est-à-dire les CRS polonais, sont entrés en disant « sortez aux grévistes ». Ils ne voulaient pas sortir, alors les commandants des OMO ont donné l'ordre, chargé les armes, les gens ont entendu le cliquement des fusils automatiques, et puis ont vu les canons de ces fusils pointer sur eux. Et puis après un certain temps, il y a un premier, un autre, et puis tout le monde est sorti. Et ces gens ont réagi d'une manière rationnelle. Ils n'étaient pas des insurgés, ils étaient des grévistes, ils n'étaient pas armés, ils ne se préparaient pas à battre physiquement, mais ils étaient conscients de ce moment-là qu'ils ont capitulé, qu'ils ont abandonné la défense de leur syndicat, de leurs idéaux, face à la violence armée. Et quoique c'était raisonnable, il y a quelque chose dans leur vision d'eux-mêmes qui a changé, qui a été cassé. C'était leur confiance en eux-mêmes qui a été cassée. Et ils n'ont la solidarité n'a pas survécu à cette expérience, traumatique. Et ce qui a survécu, c'était une conspiration anticommuniste. Pour la première fois, on peut dire nettement qu'elle était anticommuniste. Dans son langage, dans sa manière de sentir, dans ses actions, mais qui était restreinte, qui était formée surtout d'intelligentsia et exposée aux plus fortes influences des courants de pensée occidentaux.
Alors, les courants de pensée occidentaux.
C'était un néolibéralisme.
Vous parlez pas anglais, vous. Vous parlez toutes les langues sauf l'anglais.
Moi, non, je ne parle pas anglais. Ouais.
Mais on parle anglais dans le deuxième Solidarnosc.
Je parle l'italien, le français et le russe. Et
dans le deuxième Solidarnosc, qu'on parle anglais, on lit ce qui se produit dans le monde anglo-saxon en matière de libéralisme et vous dites, Ça a été la liberté peut-être, après la table ronde, après le raccommodage, après la bascule du pouvoir communiste. Ça a été la liberté sans la fraternité.
Oui.
Expliquez ça.
Mais c'est évident. Vous avez la même chose ici. C'est pas vrai?
Oui, oui, camarade. Oui.
C'est évident. C'est, si vous voulez, la rupture de fraternité qui, chez nous, était l'application d'une thérapie de choc, c'est-à-dire d'un programme économique qui reconstruisait l'économie socialiste en économie libérale du marché, c'est-à-dire en économie capitaliste tout à fait contemporaine, après Thatcher, d'après Reagan. C'est un choc beaucoup plus grave qu'en Occident, mettons. Parce que les points de départ, c'est le soi-disant socialisme réel, c'est-à-dire le système de la gestion autoritaire économique et de la politique sociale du Parti communiste. Bon, la rupture des fraternités en Occident, c'était l'abandon de l'état de providence. En Pologne, c'était... Nous avons plus de l'état de providence, plus que l'état de providence, et nous l'avons totalement abandonné. Au nom d'un certain idéal, d'une certaine idéologie, il faut dire. Parce que les économistes sont peut-être les derniers parmi les hommes de sciences humaines qui se rendent compte d'appartenir aux sciences humaines plutôt qu'à une science dure et qui a des vérités certaines à proclamer. Ils savent déjà, je pense, les économistes honnêtes, ils savent que c'est pas vrai, qu'ils sont des sciences humaines comme des autres. Mais là, ils étaient tout à fait convaincus qu'ils ont la pierre philosophique, qu'ils ont raison. Et nos cadres intellectuels en Pologne, de l'opposition post-Solidarność, lorsque la Solidarność était déjà morte, écrasée par la loi martiale, prenaient avec un esprit ouvert vers la nouvelle foi, cette profession de foi néolibérale.
Et ils ont donc suivi les économistes en disant qu'ils n'avaient pas de pensée en la matière comparable à celle des économistes. Juste cette citation, c'est à la fin de votre livre « Confession d'un cavalier usé ». Nous avons fait galoper l'histoire. Est-ce qu'il s'agit de l'Occident? Est-ce qu'il s'agit de la Pologne? La Pologne, maintenant, fait partie de l'Occident. Le nombre de ceux que la modernisation a laissés au bord de la route est estimé à quelque 25-30%. Entre les débrouillards et les lésés, il n'y a plus d'amour fraternel. L'intelligentsia s'est en général retrouvée du côté ensoleillé, mais lui parviennent les bruits irritants de la colère, de l'amertume, de la frustration et de l'agressivité du côté des frères lésés. Merci à vous, Karol Modzelewski. Vous avez fait galoper l'histoire. C'est le titre que vous avez choisi pour votre formidable livre de mémoire aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. C'est Ilinka Negulesco qui a préparé cette émission avec Franck Olivard, la technique Juliette Delperou et la réalisation Audrey Ripouille. Thank you.